D'une démarche lente et nonchalante, Amara Badji arpente une ruelle aux alentours du stade de Demba Diop, âgé de 78 ans.
Voilà, c'est le sport qui commence. Eric Manilakiza avec vous ce soir ici à Washington. On va parler de la CAN, du tirage au sort. Nous connaissons déjà les groupes d'équipes. Nous aurons nos consultants sportifs pour commenter et revenir sur l'événement lui-même du tirage au sort. Nous avons Amine Birouk à Casablanca. Amine, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Élisée Onkpatine, bonsoir Élisée, vous êtes au Bénin.
Oui, bonsoir Eric et bonsoir à tous les amis auditeurs de la VO Africa.
Oui, bien sûr, j'attends le coup de sifflet de Jules. Jules.
Bonsoir à tous.
Oui, le coup de sifflet, il est où?
Il arrivera.
Vers la fin, ok. D'accord. Voilà, vous avez suivi, bien sûr, sur votre petit écran, ce qui se passait vendredi au Caire, le tirage au sort de la CAN 2019 qui nous a offert plusieurs chocs pour la phase de poule, n'est-ce pas? D'abord, on revient sur l'organisation de l'événement qui était apparemment une originalité. Amine?
Finalité par rapport au récent tirage au sort lors des dernières années, c'était beaucoup plus sobre. Il faut se dire que l'État égyptien a voulu prouver au monde entier qu'il était capable d'organiser un événement d'une telle envergure, que le cadre féerique des pyramides de Khéops de Gizeh pouvait servir d'élément déclencheur de cette édition de la CAN 2019. Spectacle, strass, paillettes pendant 1h30 avant le passage aux choses sérieuses. Visiblement, l'organisation égyptienne érodée, elle a pu réussir son premier examen par rapport à cette CAN. Il va falloir maintenant que ça se concrétise sur le terrain à partir du 21 juin prochain avec des infrastructures en l'état, en excellent état, une infrastructure hôtelière, routière. Il va falloir aussi gérer le problème des embouteillages parce que le Caire est une des villes les plus peuplées d'Afrique, sinon la plus peuplée, avec un taux d'embouteillage très élevé. Il va falloir aussi que ce soit un package attirant pour les touristes qui vont venir de supporter les équipes nationales lors de cette édition de la CAN. Autant de défis que l'État organisateur doit devoir relever. Il a eu ce premier examen blanc, il a été réussi. Il va falloir maintenant passer le bac et le réussir avec mention.
Jules? Jules?
Oui, mais bien sûr.
Oui, oui. L'événement tel qu'organisé, ça donne un engouement pour suivre les matchs à partir du 21 juin. C'est la première fois que je voyais ça au niveau de la CAF.
Oui, mais c'est certain. Il y a le fait que la nouvelle équipe de la CAF a bien fermé ses objectifs, c'est de vendre la compétition maintenant au niveau mondial. Et donc, il faut profiter de tous les ingrédients qui peuvent amener à s'intéresser à cette compétition. Et l'Égypte possède déjà le plus haut lieu, bien sûr, de historique et touristique dans le monde à travers les pyramides de Gizeh. Donc, automatiquement, l'État égyptien et l'organisation ont compris qu'il fallait exploiter cet élément et en y mêlant également tous les éléments culturels qui pouvaient venir l'enrichir. Car il ne faut pas oublier que à cette époque où l'Égypte dominait le monde, c'était une civilisation métisse. Donc, c'est une bonne réussite pour l'organisation. On attend la suite sur le terrain sportif.
Élisée?
Oui, Eric?
Oui, un mot sur l'organisation du tirage au sort, les cérémonies, tout ce qui a suivi.
Oui, on sent que l'Égypte a une grande passion, non seulement de football, mais ça y sent aussi de la presse, puisqu'on a vu tellement de presse mobilisée autour de cet événement. Il y avait même plus de la place, surtout dans les zones mixtes, cette zone-là réservée pour réaliser des interviews. J'ai suivi une interview du président de la CAF, hein, Ahmad Ahmad, à la télé. J'ai senti que les images bougeaient énormément. Cela montre l'importance qu'a cette compétition. Qu'aura bien sûr cette compétition au niveau de l'Égypte, ce sera une grande compétition. On a vu cette différence qu'il y avait entre Nantes, hein, puisque déjà en 2006, l'Égypte avait organisé cette Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y avait pas tellement cet engouement, mais cette fois, on a senti réellement que tout le monde s'est intéressé, bien sûr, à ce tirage au sort. C'est vrai que ce sera pratiquement la première Coupe d'Afrique à 24 équipes. Peut-être que c'est ce à. C'est par rapport à ça qu'il y avait tellement d'engouement. Maintenant, c'est vrai que lors de ce tirage, on a vu ce que ça a réservé. Durant la compétition, est-ce qu'on aura une telle organisation, puisque le problème de la sécurité se pose toujours. Amine l'a parlé en temps. Les embouteillages, surtout les matchs qui auront lieu au Caire, est-ce que les discussions ont été prises par rapport à tout ceci? On sera bientôt fixé en juin prochain.
Merci Élisée pour toutes ces commentaires. Nous allons maintenant parler de la composition des groupes. Le résultat du tirage qui a donné pour le groupe A, l'Égypte, Congo, Ouganda et Zimbabwe. L'Égypte qui s'en tire bien, n'est-ce pas, Amine?
C'est une tradition à chaque fois que l'équipe de l'Égypte accueille la Coupe d'Afrique d'être lotie dans un groupe assez confortable. Cette fois-ci, le seul rival qui pourrait, déranger les Égyptiens et pouvoir les gêner pour la première place, c'est la République démocratique du Congo qui part en outsider lors de cette compétition et qui s'est retrouvée au chapeau numéro 2. Le Zimbabwe pourrait être un trouble fait, mais visiblement, l'équipe menée par Mohamed Salah a de la marge, elle jouera devant son public, elle retrouve le stade national du Caire qu'elle a quitté depuis quelques années. Elle va retrouver un public à la limite fanatisé pour une huitième consécration africaine. L'Égypte est le pays le plus titré de la compétition. Il a souvent réussi chez lui. Il a gagné la CAN en 59, en 86 et 2006 sur ses terres. Et il est prêt à relever le challenge d'une quatrième consécration à domicile.
On va parler du Maroc également, le groupe D qui... Apparemment, c'est le groupe de la mort.
Là, c'est une autre paire de manches. Moi, je ne l'appellerai pas le groupe de la mort dans la mesure où cette fois-ci, dans la CAN, c'est une CAN à 24 où les deux premiers de chaque groupe passent automatiquement, plus les quatre meilleurs troisièmes. Ça laisse un peu de marge dans ce groupe qui est assez homogène, où le Maroc a une petite marge par rapport à la Côte d'Ivoire, mais c'est une Côte d'Ivoire qui est renaissante, qui possède d'énormes individualités, et une Afrique du Sud qui est un peu l'inconnue. L'Afrique du Sud qui renoue avec la compétition africaine, qui se débrouille très bien au niveau des clubs, comme le prouve la qualification des Mamelodi en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc attention aux troubles faits Bafana Bafana. Et puis gros point d'interrogation sur la Namibie qui retrouve la CAN, qui va disputer pour la troisième fois de son histoire la compétition. Les Lions de l'Atlas emmenés par Hervé Renard sont prévenus. Ils ont fait un excellent mondial. Depuis 2-3 années ils sont en pleine renaissance. Les supporters marocains attendent une consécration africaine qui file le royaume chérifien depuis 1976. C'est le moment ou jamais. Mais attention, le Maroc n'est jamais aussi fort que lorsqu'il est en outsider. Ce n'est pas le cas cette fois-ci. Il a beaucoup plus à perdre qu'à gagner lors de ce premier tour.
Nous avons Amédine Sy, le populaire qui nous manquait. Amédine.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Amédine. Voilà, vous avez suivi... C'est ça, vous avez suivi l'organisation du tirage au sort. Un mot sur ça et puis on rebondit sur la composition des groupes pour parler notamment du groupe E.
Oui, tout à fait, parce que si on regarde quand même la composition des groupes, parce que tous les groupes sont jouables, hein, puisque...
Comme c'est très équilibré. Hein.
C'est la première fois du soir qu'une CAN se joue à 24 équipes, donc il faut comprendre, il y a beaucoup de petits poussés. Mais concernant le groupe du Sénégal, mon pays, c'est le groupe C. Et le Sénégal se trouve en compagnie de l'Algérie, du Kenya et de la Tanzanie. Certains diront que c'est un groupe jouable, mais moi je dis attention parce que le Sénégal se trouve dans un groupe où se trouve l'Algérie. L'Algérie qui est un peu la bête noire du Sénégal, hein, si on regarde quand même les confrontations entre ces deux équipes. En 6 matchs officiels, l'Algérie en a gagné 4, le Sénégal 2, et ils ont fait un match nul, donc en 7 rencontres. Et l'Algérie, pour la petite histoire, a éliminé le Sénégal. C'était en 2015, lors de la Coupe d'Afrique qui s'est jouée à Bongomo. Donc, il faut faire très attention à cette équipe d'Algérie. Mais quand on regarde quand même les autres équipes, le Kenya a rencontré le Sénégal à 3 reprises, 2 victoires du Sénégal et 1 nul. Quant à la Tanzanie, il faut reconnaître que la Tanzanie n'a jamais gagné le Sénégal. Ils se sont rencontrés à 2 reprises. Le Sénégal a battu une fois par 4-0 et l'autre rencontre s'est soldée par 1 nul. Donc on peut dire que Sénégal et Algérie seront les favoris de ce groupe C.
Élisée, vous nous entendez? Élisée.
Oui, Eric.
Oui, votre pays, le Bénin, se trouve dans le groupe F avec le Cameroun, le Ghana et la Guinée-Bissau. Est-ce que vous pensez que ça va être facile pour votre pays?
Non, on ne peut pas parler de facilité. C'est un groupe un peu difficile hein, pour les équipes du Bénin. C'est vrai que lors des éliminatoires, on a vu une équipe béninoise, en tout cas, qui avait le niveau là, qu'il faut afin de se qualifier pour le tour final, avec une très belle victoire contre l'Algérie en réalité à Cotonou. C'est vrai que à l'aller, les Algériens nous avaient dominés, mais à Cotonou, on avait vu une autre équipe béninoise qui a fait juste le service minimum, histoire de bien se placer pour une qualification. Lors de la dernière journée, on a vu les Béninois dominer les Togolais pour obtenir ce billet. Depuis 10 ans, c'est pour la première fois que le Bénin se qualifie à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la troisième, la quatrième plutôt de son histoire. Donc ça dit que ça va être un peu difficile, et que, surtout que dans ce groupe, il y a le tenant du titre, le Cameroun, qui reste favori malgré tout, il faut le dire, affiché sur le papier. Le Cameroun tenant du titre reste favori. Le Ghana aussi, qui fait partie des pays qui ont remporté plus la Coupe d'Afrique des Nations. Le Ghana, c'est vrai que le Ghana a un effectif vieillissant. Le Ghana qui est aussi en pleine reconstruction. D'ailleurs, la dernière confrontation entre le Bénin et le Ghana a d'ailleurs vu les Béninois l'emporter ici à Cotonou, 2-0, but de Jonas Okeh-Tola. Donc, c'est dit que c'est un groupe ouvert et difficile pour le Bénin, mais jouable, hein, puisque n'oublions pas que les trois. Il y aura une place de meilleur troisième, j'allais dire. Donc, ça dit que tout est possible pour les écureuils. Il suffit simplement de ne pas perdre son premier match et de faire une très belle prestation lors de la deuxième journée et espérer faire un bon résultat devant le Ghana. Et c'est vrai que la Guinée-Bissau sera à sa deuxième participation d'affilée. C'est une équipe qu'on ne maîtrise pas forcément, mais qui pourra créer la surprise. Donc, ça dit que tout est permis à nous de saisir notre chance, à nous de faire une très bonne participation lors de cette Coupe d'Afrique des Nations si on veut aller loin, et à part bien sûr les matchs de poule.
Jules, on va parler avec toi du groupe B, dans lequel se trouve le Burundi, mon pays, qui a éliminé le Gabon.
Oui, bien sûr, c'est le groupe B. Bon, avant même de parler de ce groupe, il faut dire que d'une manière générale, ici, il n'y a pas trop d'inquiétude pour les gros à cause de la formule, comme on l'a dit, et parce que les gros, le plus souvent, craignaient cette première partie de la compétition, car ils venaient plus en sélection qu'en équipe, et le plus souvent, les matchs de poule leur permettaient de rôder le collectif et d'être prêts au bon moment, ce qui les exposait aussi aux surprises. Mais ici, on voit que les surprises les amèneront peut-être à décaler dans le classement, et donc d'être obligé dès les matchs de 18e de finale à rencontrer un autre gros, mais ce ne sera pas pour être éliminé, ça ce sera particulièrement difficile. Bon, mais par contre, cette partie du tour appartient souvent à ce qu'on appelle les petits. Et ils ont des joueurs qui jouent en Afrique pour la plupart, dont les regroupements sont faciles, le plus souvent leur collectif est plus près dès le début de la compétition, mais il manque à cette équipe la richesse du banc. et que les gros ont et pour finir très bien la compétition. Donc ce sont ces équipes qui peuvent créer la surprise. Et en ce qui concerne justement le groupe B, il faut dire que Madagascar, déjà dans sa poule éliminatoire, a montré ses capacités face au Sénégal, et on ne l'attendait pas, mais on a pu voir ce que vaut Madagascar. Et nous avons vu un Burundi très discipliné et qui s'est imposé dans son groupe en étant invaincu jusqu'à la fin des éliminatoires et qui possède justement cette armada de joueurs qui jouent surtout au pays. N'oublions pas aussi que c'est un pays d'altitude et donc quand des gens qui viennent des zones d'altitude arrivent en plaine, ils ont une condition physique particulière, ils ont un avantage vis-à-vis des autres, donc par rapport aux autres. Donc moi, à ce niveau-là, je dirais que la poule est relativement équilibrée et ce sera peut-être seulement le Nigeria qui pourra tirer ses marrons du feu et probablement finir en première position. Mais pour tout le reste, que ce soit la Guinée-Conakry, une belle équipe bien sûr, que ce soit Madagascar et le Burundi, deux équipes ascendantes, on aura de très bons matchs et Malin peut être celui qui peut prévoir laquelle de ces équipes ou lesquelles de ces équipes seront éliminées.
Amine, il y a le groupe E dans lequel se trouvent la Tunisie, le Mali, la Mauritanie et l'Angola. C'est un groupe quand même important.
Important dans la mesure où les Tunisiens ne partent pas favoris d'avance. Les Maliens sont en pleine renaissance, en pleine bourre, avec notamment Moussa Marega, qui est un fer de lance de l'équipe de Porto, qui dispute les quarts de finale de la Ligue des Champions. On le verra ce mercredi contre Liverpool. Les Tunisiens, pourtant, ont fait une belle phase éliminatoire. Ils ont terminé devant l'Égypte dans un groupe qui semblait destiné à la qualification de ces deux sélections. L'équipe tunisienne possède un amalgame entre joueurs du cru, l'Espérance de Tunis, le club africain, l'Étoile sportive du Sahel, Sfax, et de nombreux joueurs expatriés, notamment Wahbi Khazri, qui fait partie des meilleurs joueurs du championnat de France. De l'autre côté, les Maliens sont plus expérimentés, plus rodés, après une phase éliminatoire de la Coupe du Monde 2018, où ils ont été décevants, mais ils sont souvent présents dans les grandes compétitions, notamment la CAN. La grosse inconnue, c'est la Mauritanie, qui dispute pour la première fois de la compétition la CAN, pour la première fois de son histoire. L'équipe est entraînée par Corentin Martins. Beaucoup de jeunes joueurs, la fougue, l'enthousiasme vont être les atouts de cette sélection qui a déjà participé à deux CHAN. Et puis il y a l'Angola qui retrouve petit à petit son meilleur niveau. Il faut rappeler que les Angolais avaient disputé deux belles CAN en 2006 et 2008 et organisé celle de 2010. On verra s'ils sont capables de tenir la dragée haute aux deux favoris théoriques du groupe, c'est-à-dire les Tunisiens et les Maliens.
Et votre pronostic ? La finale.
Justement, une petite marche pour la Tunisie devant le Mali. On verra si la Mauritanie est capable de créer la surprise. Elle sera beaucoup plus dans son élément, en Égypte, dans un pays arabe, pour son baptême de feu dans la compétition.
Et qui va l'emporter ?
On verra. L'essentiel, c'est certainement de voir les Tunisiens et les Maliens passer. Et puis la troisième place se jouera entre les Angolais et les Mauritaniens. Petite.
Et globalement qui
va. Au bénéfice de l'expérience de leur vécu dans les compétitions africaines des clubs.
Globalement, votre pronostic sur.
Pour la CAN ?
La CAN, oui.
Visiblement, l'Égypte a de la marge. Il y a le talent du Sénégal. Il y a l'ambition du Maroc avec Hervé Renard qui ambitionne de gagner sa troisième CAN et que ce sera certainement sa dernière compétition avec les Lions d'Atlas. Et puis, le Nigeria, le Ghana, le Cameroun sont des sélections qui sont capables de se transcender lors de cette CAN. C'est une des CAN les plus ouvertes, mais gros avantage pour le pays organisateur. Il aura le public, il aura ses repères et puis il y a le petit plus que pourra apporter le meilleur joueur africain du moment, Mohamed Salah.
Amédine Sy, votre pronostic ?
Bon, c'est une CAN très ouverte, comme l'a dit Amine Obiru, mais moi je pense que l'Égypte aura quand même la faveur des pronostics parce qu'on sait en Afrique, quand on organise, il y a beaucoup plus de chances. Et là, je me rappelle avoir couvert la CAN 2008 en Égypte et l'Égypte avait quand même remporté se tournant face à la Côte d'Ivoire. Donc, avantage à l'Égypte, mais attention, parce qu'en Afrique, il y a de grandes nations comme le Cameroun, le tenant du titre, qui sont équipés, est composée quand même de compétiteurs. Il y a le talent des Nigériens, il y a aussi la baraka de Hervé Renard avec le Maroc, mais aussi le Sénégal qui peut venir en outsider puisque le Sénégal, comme vous le savez, est la première nation africaine actuellement, mais le Sénégal condensera un certain Sadio Mané qui marche le haut. Donc je dirais que je vois un de ces cinq, une de ces cinq nations remporter quand même cette Coupe d'Afrique des Nations, Eric.
Élisée, même question.
On aura une très belle CAN. C'est vrai que pronostiquer sera un peu difficile. Et on peut parler quand même, on peut prendre les équipes compte tenu de leurs prestations pour dire que l'Égypte qui évolue à domicile n'est pas favori devant les autres équipes. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a aussi des pays qui ont commencé par faire un travail très important, surtout le Maroc d'Hervé Renard, qui est un expérimenté, qui connaît bien sûr cette Coupe d'Afrique des Nations pour l'avoir gagné avec la Zambie et la Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, je le mets même devant l'Égypte, même si l'Égypte joue, évolue à domicile. Mais après, on aura forcément en deuxième position le Sénégal. C'est vrai que le Sénégal, à des moments donnés, a compris, puisque lors de sa dernière participation à la Coupe d'Afrique des Nations, les joueurs doivent forcément comprendre qu'il y a une différence entre les éliminatoires et bien sûr la phase finale. Et moi, je vois le Sénégal, même devant l'Égypte, c'est vrai que Mohamed Salah est là, mais à part Mohamed Salah, le reste, ce n'est pas le niveau de Mohamed Salah. Par contre, quand vous prenez le Maroc, qui a un entraîneur expérimenté, où il y a un effectif qui est déjà là avec Ziyech, Belanda et autres, c'est une équipe qui a l'expérience qu'il faut. Moi, je mets devant le Sénégal. Après, on pourra parler du Nigeria, qui a aussi une très belle sélection. Donc voilà un peu vos pronostics. Le Maroc, le Sénégal, le Nigeria, classé devant même l'Égypte, qui est le pays organisateur.
Jules, très rapidement, votre pronostic.
Oui, ici, bon, généralement, dans ce genre de compétition, il faut d'abord des équipes qui ont une sécurité défensive. Parce que quand on va commencer les matchs à élimination directe, qui commence très tôt dès le huitième de finale, il faudra savoir subir, gérer les temps faibles et en même temps réagir. Donc moi, dans mon palmarès, je mettrai les équipes qui ont ces qualités, c'est-à-dire l'Égypte, le Nigeria, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie et le Cameroun. Donc je crois que ce sont des équipes parmi ces équipes, ces têtes de série d'ailleurs, je crois qu'on aura le champion d'Afrique qui sortira de ce championnat.
Nous avons les commentaires de quelques auditeurs. Samy qui dit « Nous allons vivre une CAN incroyable ». Brahima Doumbia, le groupe E est difficile. Alphonse Mbouaki, il dit l'Égypte, l'Algérie, le Sénégal avec Sadio Mané, le Maroc, le Nigeria, le Ghana, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Mali, la RDC, Congo. Rassure pour le second tour. Haruna Traoré et Yen est facile dans ces groupes-là, mais je sais que ça va aller. Inch'Allah, il attend donc des miracles. Glavis Ngoudi dit... il faut bien préciser la RDC, le nom, le Congo, car il y a deux Congo. Il fait une remarque. La Sina Diarra, Algérie, Sénégal, Maroc, c'est le groupe de la mort selon lui. Joël Mouloubou, groupe D sur papier selon le classement FIFA, c'est le groupe le plus difficile. Jean Passeur, Vizindavi, c'est en Burundi, et qui dit évidemment que la coupe rentrera au Burundi. Attendons voir. Et Alandou Nebi qui revient justement sur les éliminatoires. On va terminer avec la Champions League. Demain, Manchester-Barcelone. Il y a une équipe qui va sortir de la compétition, mais aussi dans l'autre affiche, Ajax d'Amsterdam et la Juve. On va donner 30 secondes à chacun. Amine, on commence par vous.
Gros pronostic, gros avantage pour Barcelone. Ils ont déjà gagné à Old Trafford, des faits l'essentiel. Il va falloir maintenant qu'ils préservent ce résultat et ne pas tomber dans le piège du PSG. Et puis Ajax-Juventus ou Juventus-Ajax, beaucoup plus indécis que prévu. Attention à la fougue des Hollandais qui sont capables de jouer un bien mauvais tour.
Amédine, 15 secondes.
Avantage Barça est bon. Une grande question par rapport au Real de Madrid face à Ajax d'Amsterdam.
Élisée, 15 secondes.
Barcelone, Juventus.
Jules.
Oui, c'est Barcelone et Juventus, deux équipes qui ont su combler leurs lacunes. Et Juventus en attaque, Barcelone en défense.
Merci à vous tous pour votre contribution dans ce Sporama. Et c'est la fin de votre émission sportive de ce soir. Merci à Amine Birou Casablanca. Élisée Nkoupatine qui est au Bénin, Jules Valentin Ngoué qui est au Gabon et Amédine Si au Sénégal. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis et à Michel Joseph qui a assuré la mise en onde. Hightech, Voitech, à la console. Eric Manirakiza vous souhaite une excellente soirée.